RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Julien, bonjour à tous.
Dans cette édition, une charge contre l'Europe à la une.
Oui, elle émane de l'un des plus solides alliés du vieux continent, les États-Unis, à la conférence de la sécurité de Munich. Les tensions entre États-Unis et Européens se sont fait jour hier, alors que les Européens tentent de ne pas se faire exclure des futures négociations de paix sur l'Ukraine. Dans ce journal aussi, un sixième échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens prévus aujourd'hui, alors que l'armée israélienne poursuit, elle, ses opérations en Cisjordanie occupée. Reportage à suivre. À la une aussi, le groupe armé du M23 qui progresse dans la province du Sud Kivu. Félix Tshisekedi, le président congolais, ne sera pas au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba ce week-end. Et puis, les inquiétudes autour de la santé du pape François, hospitalisé pour une bronchite à l'âge de 88 ans.
La conférence sur la sécurité de Munich, première journée hier marquée par des attaques en règle contre le modèle européen.
Alors que l'Ukraine a fait l'objet de nombreuses discussions, avec notamment un entretien entre le vice-président américain J.D. Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la délégation américaine a multiplié les attaques contre l'Europe. L'Europe où la liberté d'expression serait en train de reculer, selon le vice-président américain, alors que Donald Trump affirmait, lui, depuis Washington, que l'Europe avait, je cite, un gros problème d'immigration. Un récit de cette première journée avec Oriane Verdi.
Difficile de savoir par où commencer, tant les accrochages par discours et tables rondes interposées se sont multipliés hier. Il y a peut-être tout d'abord l'Ukraine, avec l'annonce mercredi de négociations en direct entre Moscou et Washington. Pas de paix en Ukraine sans l'implication de l'Europe, ont continué de marteler les Européens hier. Même exigence de la part du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a rencontré hier soir le vice-président américain J.D. Vance en marge de la conférence de Munich. Mais de leur côté, les Américains semblaient avoir d'autres priorités attendues. Sur l'Ukraine, en effet, le vice-président américain s'en est pris aux démocraties européennes qu'il accuse de censurer les mouvements d'extrême droite. Dans la soirée, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a renchéri, s'inquiétant de voir l'Europe en train de perdre son merveilleux droit à la liberté d'expression. Pendant ce temps, son vice-président à Munich finissait la journée par une rencontre avec la porte-parole du parti d'extrême droite allemand, l'AFD. Elon Musk et d'autres proches de Donald Trump ont multiplié les gestes de soutien à l'égard de l'AFD à l'approche des élections fédérales allemandes dans 10 jours. Aujourd'hui, l'Ukraine, l'OTAN et l'Europe sont à nouveau au programme de la conférence de Munich. De quoi animer à nouveau les échanges.
Oriane Verdier, hier, Emmanuel Macron s'est lui entretenu avec Volodymyr Zelensky par téléphone, assurant que les Ukrainiens étaient les seuls en mesure de mener les échanges pour une paix solide et durable avec la Russie.
Un sixième échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens prévu aujourd'hui.
Oui, 3 Israéliens, tous binationaux, captifs du Hamas depuis 16 mois à Gaza, seront libérés en échange de 369 prisonniers palestiniens. Selon le club des prisonniers palestiniens, l'Égypte et le Qatar ont mené cette semaine une médiation pour que cet échange soit bien mené et que la trêve soit sauvegardée. La suite du cessez-le-feu reste incertaine. Les négociations prévues sur la deuxième phase n'ayant toujours pas commencé.
L'armée israélienne qui ne bombarde plus Gaza mais qui mène depuis 3 semaines une opération militaire de grande envergure en Cisjordanie occupée.
Depuis le 21 janvier dernier, le lancement de l'opération Mur de Fer. Plusieurs localités du nord de la Cisjordanie sont visées, notamment Jenin et Toul Karem. L'objectif affiché par Israël, c'est de lutter contre des groupes armés palestiniens considérés comme terroristes. Dans le camp de réfugiés d'Al-Farah, la population est toujours sous le choc de la violence de l'opération israélienne. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Abla Jounaidi.
Au siège du gouvernorat de Toubas, les réunions d'urgence s'enchaînent. La priorité, fournir de l'aide, restaurer les services de l'eau et de l'électricité au camp de réfugiés d'Al-Farah après l'opération destructrice de l'armée israélienne. Le gouverneur Ahmed Al-Assad ne nie pas la présence d'armes dans le camp, mais il assure que le travail avait été fait avant l'éruption de l'armée israélienne.
La veille de l'opération, une personne avait signalé à la police palestinienne des bombes. On avait tout éliminé. Malgré tout, le lendemain, l'armée israélienne entrait. Pour moi, c'est une opération politique. On vise simplement les camps pour instiller la peur, faire partir les gens de force. 3000 personnes sont parties en 3 jours.
8 personnes ont été arrêtées dans le camp, certaines relâchées, comme cet adolescent de 16 ans dont la maison a été prise d'assaut.
Un soldat m'a frappé à la bouche. Une fois dehors, j'ai reçu un coup de crosse sur l'épaule et à nouveau quand ils m'ont emmené dans un poste militaire. Je dormais à même le carrelage, menotté et sans couverture, sans eau ni nourriture. Quand je m'endormais, on me versait de l'eau froide sur la tête. Et ça pendant 2 jours.
Lui, comme d'autres hommes, ne se sont pas vus formellement accusés de crimes. L'armée israélienne décrit ses opérations dans les camps de réfugiés du Nord comme des opérations antiterroristes. Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
Au Liban à présent, la force de l'ONU, la FINUL, exige une enquête immédiate.
Après l'incendie de l'un de ses véhicules sur une route bloquée par des partisans du Hezbollah près de Beyrouth, une attaque condamnée fermement par les autorités libanaises, un commandant adjoint de la FINUL a été blessé. FINUL qui dénonce une violation flagrante du droit international pouvant être assimilée à un crime de guerre.
Il ne participera pas au sommet de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui.
Et le président congolais Félix Tshisekedi ne se rendra pas à Addis Abeba. C'est ce que fait savoir une source gouvernementale à l'agence France Presse. Le conflit dans l'est de la RDC qui oppose les forces congolaises et leurs alliés au groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. C'est l'un des gros dossiers de ce sommet de l'Union africaine. Sommet lors duquel doit également être désigné le nouveau chef de la commission de l'UA. L'organisation qui veut montrer qu'elle est capable de peser sur les conflits en cours en RDC mais aussi au Soudan, Clotilde Hazard.
L'Union africaine a l'opportunité de montrer qu'elle peut parler d'une voix forte et surmonter ses faiblesses, comme les financements insuffisants ou la concurrence entre les blocs régionaux qui entravent son action. Sur les conflits en RDC et au Soudan, les représentants des États membres se sont réunis jusque tard hier pour un conseil de paix et sécurité. La situation qui s'aggrave sera au cœur des discussions entre les États ce week-end. Aujourd'hui, l'UA renouvelle son leadership, le numéro 1 de l'organisation. Le président de la commission sera élu pour un mandat de 4 ans et succédera à Moussa Faki. Le vice-président de la commission sera lui aussi élu. Et à la présidence de l'organisation, l'Angola prendra la suite de la Mauritanie selon la rotation régionale tous les ans. Sur le plan mondial, les États membres devront aussi faire le bilan de la première année au G20 en tant que membre. Cette année, l'Afrique du Sud en a pris la présidence, une occasion pour l'UA de faire valoir ses intérêts. La guerre à Gaza sera aussi abordé. En revanche, Volodymyr Zelensky ne fera finalement aucune allocution vidéo en ouverture du sommet. L'invitation du président ukrainien par l'organisation avait provoqué l'ire de plusieurs États membres qui s'étaient opposés à sa venue. Clotilde Hazard, Addis Abeba, RFI.
On évoquait le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé du M23 progresse dans la province du Sud Kivu alors que des éléments du M23 étaient signalés à l'aéroport de Kavumu hier à la mi-journée. Une source gouvernementale congolaise a reconnu qu'ils étaient apparus hier en début de soirée à Bukavu, à une trentaine de kilomètres plus au sud. Suite à ces événements, le président Félix Tshisekedi a écourté son séjour en Allemagne à Munich pour rentrer à Kinshasa, où nous serons en direct dans le prochain journal dans une vingtaine de minutes.
L'inquiétude autour de l'état de santé du pape François.
Et le chef de l'Église catholique de retour à l'hôpital, François, a été contraint d'annuler tous ses rendez-vous du week-end en raison d'une bronchite qui l'affaiblissait ces derniers jours. Un signe supplémentaire de la santé fragile du souverain pontife âgé de 88 ans. Correspondance Eric Senanc.
C'est une bronchite persistante qui a contraint François à revenir à l'hôpital Gemelli de Rome, là où il avait déjà effectué plusieurs séjours, le dernier en date en juin 2023 pour une opération à l'intestin. Ces derniers jours, le pape de 88 ans avait montré des signes de grande fatigue. Dimanche dernier, en pleine messe célébrée place Saint-Pierre, il avait interrompu son homélie.
Je m'excuse et demande au maître des célébrations de poursuivre la lecture parce que je manque de souffle.
Lundi, François avait reçu en audience le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui avait été marqué par sa fatigue. Entre décembre et janvier, le souverain pontife était par ailleurs tombé 2 fois sans gravité mais donnant des sueurs froides à son entourage. Hier soir, un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège a révélé que le pape souffrait d'une infection des voies respiratoires et d'une légère fièvre, mais le porte-parole du Vatican a précisé à des journalistes qu'il était serein, de bonne humeur et avait lu quelques journaux. Toutes les activités du chef de l'Église catholique ont été annulées jusqu'à lundi. Selon certaines sources citées par le quotidien Repubblica, son hospitalisation pourrait s'étendre jusqu'à 5 jours. Éric Sélanque, Rome, RFI.
En France, sous pression, le Premier ministre François Bayrou rencontre aujourd'hui à Pau le collectif des victimes de violences commises au collège-lycée de Bétarame.
Un établissement où le Premier ministre a scolarisé plusieurs de ses enfants. Le Premier ministre qui avait déclaré cette semaine à l'Assemblée n'avoir jamais été informé de violences commises dans cet établissement catholique réputé pour sa fermeté. Une enquête du média Mediapart révèle plusieurs témoignages qui affirment qu'il aurait bien été alerté au sujet de ces violences éducatives et sexuelles lorsqu'il était ministre de l'Éducation dans les années 90. La France qui connaît des turbulences économiques, mais voilà une entreprise qui se porte très bien. La marque de luxe Hermès défie la crise. Elle vient de dévoiler des résultats financiers historiques pour 2024. Son chiffre d'affaires a augmenté 13%, soit près de 15 milliards d'euros, et son bénéfice net de 6,8%. Le groupe ne s'est jamais porté aussi bien, Oriane Gendrou.
Une croissance presque insolente dans un secteur du luxe fortement ralenti. La fin de l'année a été particulièrement marquante. Entre octobre et décembre, les ventes d'Hermès ont augmenté de 17% contre seulement 1% pour LVMH. Des ventes en hausse en Amérique, en Europe et même en Asie, alors que les ventes de produits de luxe en Chine ont fortement baissé. Hermès s'en sort surtout grâce à une hausse des dépenses moyennes de ses clients, surtout dans la bijouterie, le cuir et le prêt-à-porter. La marque a réussi à fidéliser une clientèle très aisée, beaucoup plus fiable en période de crise que celle de ses concurrents. Le gérant du groupe Axel Dumas salue une performance solide dans un contexte économique et géopolitique incertain. Interrogé sur les risques de droits de douane imposés par le gouvernement de Trump, il commente « Quand les droits de douane augmenteront, on augmentera nos prix en conséquence. » Le patron se montre confiant et réfléchit à investir le marché de la haute couture cette année.
Oriane Gendrou. Enfin, les sports football. Lille se déplace demain sur la pelouse de Rennes pour la 22e journée de Ligue 1. Le club du LOSC pourra compter sur le retour de Nabil Bentaleb. L'international algérien a été autorisé à rejouer dès ce week-end. Il avait pourtant été victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 18 juin. Solène Ravenel.
Éloigné des terrains depuis son accident il y a 6 mois lors d'un match avec ses amis, Nabil Bentaleb attendait avec impatience le feu vert de la commission médicale de la Fédération française de football pour enfin pouvoir reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers. Il a appris la bonne nouvelle cette semaine.
J'ai tellement attendu ce moment que j'avais l'impression que c'était pas réel. C'était un travail de longue haleine de toute l'équipe. On n'a pas lâché, on y a cru. Avoir ce feu vert, c'était en quelque sorte une délivrance.
Nabil Bentaleb s'est inspiré du parcours de Christian Eriksen, international danois victime d'un arrêt cardiaque en plein match de l'Euro en 2020, qui a pu poursuivre sa carrière. Le milieu de terrain lillois s'est entouré de plusieurs spécialistes.
J'ai énormément travaillé ces 8 derniers mois. J'ai été super bien accompagné avec mon kiné en dehors du club et j'ai été suivi au jour le jour. J'ai pas dormi pendant 8 mois. J'ai travaillé pendant 8 mois.
Un retour qui réjouit forcément le président du club du LOSC, Olivier Létan, pour qui l'accompagnement de Nabil Bentaleb était une priorité.
On voulait être les pionniers, on voulait vraiment, on avait un rêve, c'est que Nabil rejoue avec le maillot du LOSC chez nous.
C'est la première fois qu'un joueur avec un défibrillateur automatique est autorisé à jouer dans le championnat français.
Solène Ravenel.
Merci Jeanne Bartoli. Samedi 15 février 2025, bienvenue à vous, RFI Matin, 3 heures d'information. Et à la une, un sommet de l'Union africaine sans Félix Tshisekedi aujourd'hui, alors que le M23 soutenu par le Rwanda poursuit son avancée dans le sud Kivu, qu'une source gouvernementale congolaise reconnaît que le groupe armé est apparu à Bukavu hier soir. On fait le point dans toutes nos éditions et avec Paulina Zidi, notre correspondante en direct, dans moins de 20 minutes. Autre situation qu'on suit de près ce matin, c'est ce 6e échange entre Israël et le Hamas. 3 otages israéliens et 369 prisonniers palestiniens doivent être libérés aujourd'hui. Après une semaine où l'accord de cessez-le-feu à Gaza a frôlé le point de rupture, l'accord peut-il tenir et aller plus loin que sa première phase? On fait le point avec notre invité, professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée Moyen-Orient, Jean-Paul Chagnolo, avec nous dans une heure. Mais d'abord, pour commencer ce matin, c'est en Corée du Sud que nous partons, pays confronté, comme beaucoup d'autres, à la baisse des naissances et des mariages, à tel point que la mairie de Séoul a décidé de s'en mêler avec un événement incongru hier pour la Saint-Valentin. Un grand speed dating municipal, 50 hommes, 50 femmes invités à se rencontrer pour la première fois et tenter de se séduire. Que ce soit son rôle ou non, la mairie ne cache pas son objectif, former de nouveaux couples. C'est Lio Fioretti.
Dîner, vin pétillant et œuvres d'art, la mairie de Séoul sort le grand jeu pour cette Saint-Valentin dans l'espoir de former de nouveaux couples. Une intrusion des pouvoirs publics dans ce qui est habituellement de l'ordre du privé, mais nécessaire selon les organisateurs comme Park Suki, en charge de la lutte contre la dénatalité à la mairie de Séoul.
Au-delà de simples rencontres, ce programme vise à créer des couples qui peuvent se marier, avoir des enfants, car c'est une grande problématique de notre pays. La mairie aide par ailleurs les mariages avec un chèque de 700 euros pour les jeunes mariés cette année à Séoul.
En 2024, le taux de natalité de la Corée du Sud s'est élevé à 0,7 enfants par femme, le plus bas au monde, et le nombre de mariages diminue également. D'après un récent sondage, 40% des Sud-Coréens entre 20 et 50 ans ne souhaitent pas se marier. Coûts financiers importants ou manque d'égalité au sein des couples, les arguments sont divers. Mais pour ces deux participants venus aujourd'hui au blind dating, il s'agit avant tout de faire des rencontres.
Je pense que c'est difficile de trouver l'amour de nos jours, parce qu'il y a peu de gens qui correspondent à mon style. Et aussi parce qu'il est difficile de tomber sur quelqu'un avec qui l'entente est réciproque.
Oui, ces jours-ci, les gens ne se rencontrent plus. Nous n'avons pas forcément le temps, l'occasion de faire de belles rencontres. Alors un événement comme celui-ci, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si je trouverai l'amour, mais ça peut aider.
Les deux jeunes prétendants continuent leur dîner, mais une question se pose. Ce genre d'événement est-il bien efficace pour créer des nouveaux couples? Depuis quelques années, différentes villes du pays s'y sont essayées et beaucoup ont annulé leur programme de speed dating. Trop peu de volontaires et de couples à la sortie. Park Suki, de la mairie de Séoul, défend tout de même son programme.
Nous avons eu de bons résultats les années précédentes avec 22 couples sur 100 participants. Bien sûr, la crise de dénatalité n'est pas seulement une affaire de rencontres. Il faut réfléchir aux problèmes pour trouver un logement, à l'équilibre entre vie et travail. Mais je pense que le blind dating peut être un point de départ.
Après s'être rencontrés et avoir dîné ensemble, les participants pourront choisir leurs trois personnes préférées. La mairie leur communiquera ses noms dès le lendemain, dans l'espoir qu'ils se retrouvent pour un nouveau rendez-vous galant. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Notre reportage international en Corée du Sud à retrouver sur RFI.fr.
RFI Matin.
5h17, en temps universel, dans moins d'un quart d'heure, un point complet sur l'actualité africaine et notamment le sommet de l'Union africaine et les combats dans l'est de la RDC, deux actualités qu'on retrouve à la une de Jeune Afrique. Comme chaque samedi, on ouvre les pages du magazine avec son directeur de la rédaction, François Soudan. Il est au téléphone de Catherine Potet.
À la une de Jeune Afrique, deux grands entretiens réalisés à la veille du sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui commence aujourd'hui à Addis Abeba. Deux chefs d'État concernés par la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
C'est vous qui avez interviewé ces deux chefs d'État, l'Angolais João Lourenço et le Rwandais Paul Kagame. Commençons par le président angolais, le président en exercice de l'Union africaine. Quelle est sa position? Que vous a-t-il dit?
Alors, il nous dit deux choses à ce propos, le président angolais, dans cet entretien qui, par ailleurs, porte sur beaucoup d'autres sujets, hein, Catherine, notamment sur le fait qu'il ne briguera pas un troisième mandat en 2027, c'est important. Alors, il nous dit d'abord qu'après pratiquement deux années difficiles, passablement frustrantes, en tant que médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit, il va maintenant qu'il s'apprête à prendre la tête de l'UA, passer la main sur ce dossier à un ou d'autres chefs d'État. Et le second point concerne la solution au conflit. João Lourenço n'en voit pas d'autre que le triptyque retrait des troupes rwandaises, neutralisation des ministres FDLR, négociation directe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Mais sur ce dernier aspect qui est particulièrement sensible, comme on le sait, le président Lourenço demande à Félix Tshisekedi de s'inspirer de l'exemple de l'Angola. Nous avons, dit-il, connu une longue guerre civile et pour y mettre fin, nous avons parlé, nous avons négocié avec toutes les parties prenantes. On a négocié avec les forces sud-africaines du régime de l'apartheid qui étaient présentes sur notre territoire et on a parlé, on a négocié avec ce qui était un petit peu l'équivalent du M23, ce qui était un peu, c'est-à-dire l'UNITA de Jonas Savimbi, soutenu par l'Afrique du Sud. Pour résoudre un conflit opposant les fils d'un même pays, dit-il, il n'y a pas d'autre solution que de se parler.
Voilà donc pour le président en exercice de l'Union africaine. Autre acteur, cette fois-ci directement par parties prenantes au conflit, le président rwandais Paul Kagame, que vous avez également interviewé. Première question, toute simple, reconnaît-il la présence de ses troupes sur le terrain?
La reconnaissance, elle est implicite, hein, mais elle est claire. Nous sommes impliqués, bien entendu, dit Kagame. Nous sommes en réalité depuis 30 ans, depuis que ce problème existe. Nous avons conclu au moins 5 accords avec le gouvernement congolais depuis 2007 et aucun n'a été respecté. Les milices génocidaires sont toujours présentes. Dès lors, devrions-nous simplement nous taire et ne pas agir? Reconnaissance aussi, Catherine, cette fois-ci explicite, du soutien au M23. Un groupe qui, dit-il, ne fait que réclamer le droit à l'existence d'une population à qui l'on reproche d'être composée de Tutsis et que l'on veut expulser au Rwanda, alors que ça n'est pas le Rwanda qui les a amenés au Congo, c'est l'histoire de la colonisation et du tracé des frontières. Et interrogé sur le point de savoir s'il partage les objectifs politiques de l'Alliance First Congo et du M23 qui réclame, comme on le sait, le départ de Félix Tshisekedi du pouvoir, la réponse de Kagame est la suivante: je peux comprendre ce qu'ils expriment.
Paul Kagame qui s'exprime également sur l'éventualité de sanctions internationales contre le Rwanda. Et il n'y va pas par quatre chemins.
Ah non, on est là dans du Kagame pur jus, hein, tranchant, intransigeant, d'autant plus offensif qu'on cherche à l'isoler. Des pays, dit-il, dont certains font partie du problème, et il en cite deux, ex-colonisateurs, Belgique, Allemagne, me menacent de sanctions alors que je me défends et ils pensent pouvoir m'intimider avec ça. Soyons clairs, si je dois choisir entre faire face à une menace existentielle et être confronté à des sanctions, je prendrai les armes pour affronter la menace sans tenir compte des sanctions. Et Kagame prend en exemple l'histoire d'une femme pendant le génocide de 1994. Avant qu'il ne la tue, raconte-t-il, ses bourreaux l'ont sommé de choisir la façon dont elle allait mourir. Sa réponse a été de leur cracher au visage. Alors, on le voit, Catherine, leur n'est pas encore, et c'est un euphémisme au dialogue. Encore moins une rencontre Kagame Tshisekedi, une rencontre dont le président rwandais dit d'ailleurs ne pas percevoir l'intérêt, si elle se résume, dit-il, à serrer des mains et à faire le spectacle devant les caméras.
Merci François Soudan. Ces interviews de Paul Kagame et João Lourenço sont à retrouver sur jeuneafrique.com.
François Soudan de Jeune Afrique avec Catherine Potet. Jusqu'où va la science? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Attention, chute d'astéroïdes. La communauté astronomique internationale surveille de très près un petit astéroïde qui pourrait percuter la Terre en 2032.
Pas de scénario catastrophe tout de même pour le moment, mais l'astéroïde 2024 YR4, qui a été détecté le 27 décembre dernier par un télescope automatique au Chili, a tout de même 2% de chance de percuter la Terre en 2032, selon les simulations de sa trajectoire effectuées par la NASA et l'Agence spatiale européenne, soit un risque suffisant pour que ce bolide, ce petit corps céleste d'un diamètre estimé entre 40 et 90 mètres, ait fait l'objet d'une notification au réseau international d'alerte aux astéroïdes. Créé en 2013 sous l'égide de l'ONU, le comité de pilotage de ce réseau est alerté dès qu'il y a plus de 1% de risque dans les 50 ans à venir de collision d'un objet céleste avec la Terre. Ce qui est le cas de 2024 YR4. Parmi les quelques 37 000 astres géocroiseurs recensés comme susceptibles de croiser la route de la Terre, c'est même le plus dangereux. Voilà pourquoi les scientifiques de ce réseau d'alerte planétaire ont prévenu le 30 janvier dernier le groupement consultatif sur la planification des missions spatiales pour décider ensemble de la marche à suivre et notamment s'il faut envisager de lancer un satellite pour percuter l'astéroïde afin de le dévier de sa trajectoire comme cela a déjà été expérimenté avec succès en 2022 par la mission DART de la NASA.
Il est si dangereux que ça, Caroline, ce petit astéroïde?
Rassurez-vous, Julien, il s'agit d'abord du principe de précaution. 2% de risque de collision avec la Terre en 2032, ce n'est pas nul, mais ça laisse heureusement 98% de chances de passer à côté. Il faut donc, avant de s'affoler, affiner la trajectoire de cet astéroïde tant qu'il est visible. Les astronomes ont donc demandé un temps d'observation au télescope spatial James Webb en mars pour préciser sa trajectoire, car ensuite il faudra attendre son prochain passage en 2028. Et comme le spécialiste des astéroïdes, Patrick Michel, du CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est également membre du comité de pilotage du réseau d'alerte international aux astéroïdes, l'a précisé au journal Le Monde, le temps sera compté en 2028. Si la collision avec la Terre est confirmée En 2032, le temps sera compté pour lancer une mission de déviation de l'astéroïde. Restera tout de même une autre option, déterminer le lieu exact, le couloir en fait, sur lequel 2024 YR4 pourrait tomber, afin de prévenir et d'évacuer les populations concernées. Le journaliste Pierre Barthélémy, dans cet article du Monde, rappelle tout de même que le 30 juin 1908, un bolide venu de l'espace a explosé en Sibérie, dans la région de la Tunguska, détruisant des dizaines de milliers d'arbres de la taïga sur plus de 2000 km². Heureusement, cette région était inhabitée. Le corps céleste qui y a explosé était autour d'une cinquantaine de mètres de diamètre, soit à peu près l'équivalent de notre 2024 YR4. D'où l'intérêt de surveiller, de scruter le ciel et de surveiller précisément cet astéroïde qui a pour l'heure 2% de risque de tomber sur Terre le 22 décembre 2032. Soyons précis avant que le ciel ne nous tombe sur la tête.
Jusqu'où va la science? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme d'Autour de la question.
Les migrations humaines, animales et même végétales autour de deux expositions et autour de la question pourquoi tout migre. Et puis mardi, pourquoi tout est histoire de molécules, la vie, l'amour, la mort, racontée par un chimiste. Qui dit mieux?
Merci Caroline Nachowski. Bienvenue dans le game, comme chaque samedi. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, on va parler des personnalités oubliées du jeu vidéo.
Oui, en février, les Américains célèbrent le Black History Month, donc l'histoire des cultures noires, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire connaître des personnalités marquantes du jeu vidéo. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'enrichir vos connaissances du secteur en découvrant trois personnalités noires qui ont contribué au développement du jeu vidéo dans le monde et qui pourtant sont trop souvent oubliées. Et on commence avec Jerry Lawson. C'est une figure incontournable de l'histoire du jeu vidéo. C'est lui qui a conçu et développé en 1976 la Fairchild Channel F, l'une des toutes premières consoles de jeux vidéo à cartouches interchangeables. Grâce à Lawson, les joueurs pouvaient désormais profiter d'une variété de jeux sans avoir à acheter une nouvelle console à chaque fois. Son innovation a posé les fondations de l'industrie du jeu vidéo telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Vous nous présentez ensuite une développeuse française.
Oui, c'est une autre figure incontournable du jeu vidéo, et elle est française, et plus précisément de Martinique. Il s'agit de Muriel Tramis. Elle a travaillé chez Cocktail Vision et a créé des jeux d'aventure qui ont marqué toute une génération. Mais elle est surtout connue pour avoir travaillé sur les jeux Addy, les premières versions de Addyboo qui ont marqué une génération d'enfants. Avec d'autres titres comme Mewilo en 1992 ou encore Geisha en 1990, Muriel Tramis a gagné son pari de raconter des histoires qui ont du sens et de diffuser des cultures caribéennes et enfin d'ouvrir la voie à d'autres femmes dans le secteur. Continuons avec Mike Pondsmith, qui lui est un auteur de jeux de rôle. Il est surtout connu pour avoir créé l'univers de cyberpunk dans les années 80, un monde futuriste, sombre et dystopique qui a inspiré de nombreux jeux vidéo, films et romans. C'est grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui explorer des villes futuristes, peuplées de cyberpunk et de néons. Et son univers a inspiré de nombreux créateurs. D'ailleurs, il a travaillé comme consultant narratif auprès des développeurs du célèbre jeu vidéo Cyberpunk 2077.
Et Jennifer, pourquoi est-il important de connaître ces personnalités?
En fait, en mettant en lumière les contributions de Jerry Lawson, Muriel Tramis et Mike Pondsmith, nous rendons hommage à des pionniers qui ont vraiment inspiré des générations de développeurs et qui ont contribué à faire du jeu vidéo l'industrie culturelle qu'il est aujourd'hui. Et aussi, en reconnaissant le rôle de ces personnalités, on contribue à déconstruire les stéréotypes et à montrer que la diversité est une richesse dans le monde du jeu vidéo. Ce sont des pionniers qui nous rappellent que la créativité ne connaît pas de frontières et que chacun, quelles que soient ses origines ou sa couleur de peau, peut apporter sa pierre à l'édifice.
Bienvenue dans le game. Merci Jennifer Lufaux. Et bienvenue sur la Radio du Monde si vous nous rejoignez en ce samedi matin. Il est bientôt 5h30 en temps universel et l'info continue dans une minute sur RFI. A tout de suite.
RFI à Bukavu, 98 FM. Goma, 98 FM. l'épopée des musiques noires.
Après New York et Los Angeles, l'auteur Philippe Rossa, passionné par l'histoire du rock, nous présente les hauts lieux de Chicago. On y redécouvre un passé glorieux, celui des pionniers du jazz, du blues, du gospel, de la soul et même de la house music. Avec son livre Streets of Chicago, il met en lumière des bâtisses, des rues et des avenues arpentées pendant des décennies par les témoins et acteurs de l'épopée des musiques noires. Rendez-vous tout à l'heure avec Joe Farmer à 13h31.
RFI. Appelez-nous, exprimez-vous, Chantal Laureau.
Au Sénégal, le nouveau pouvoir accuse le régime sortant d'avoir menti et falsifié les chiffres sur la situation des finances publiques. Suite au rapport édifiant de la Cour des comptes, la justice va ouvrir des enquêtes. Le camp Macky Sall dénonce une machination politique. Qu'en pensez-vous ?
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Chantal Laureau, avec vous au téléphone, lundi, à partir de 8h10 TU.
RFI.